Alors, il y a maintenant exactement 48 ans, un soir du mois d'octobre, j'étais en train de souper dans un restaurant à Haute-Rive. Haute-Rive, aujourd'hui, ça n'existe plus, là, c'est rendu Baie-Comeau. Mais j'étais dans un restaurant là, avec Rosaire, puis le gars qui allait devenir mon beau-frère 4 ans plus tard, là, que Rénal Carbonneau. Alors, on était là, toi et toi, c'est en train de souper, là. Puis, en ce temps-là, ni moi ni Rosaire, on connaissait le Seigneur, mais on était ce qu'on pourrait dire ouvert à l'Évangile. On n'était pas que rebelles, puis on était donc prêts à entendre puis écouter des choses concernant ce qu'est l'Évangile. Puis justement, Rénal, qui lui avait connu le Seigneur un an avant, il commence à nous parler de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, vous devez savoir de quoi ça parle. Ça parle de la résurrection. Alors, la raison pour laquelle je me souviens très bien de ces discussions-là, là, ce soir-là, c'était que j'avais jamais entendu parler de ça avant. La résurrection des morts. C'était du tout nouveau pour moi. Donc, ça piquait ma curiosité. Alors, écoutez, la résurrection des morts, l'importance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, l'ordre des résurrections, c'est tous des sujets qu'on voit ça dans 1 Corinthiens 15. Alors, je vous invite donc à tourner dans 1 Corinthiens 15. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ces textes-là, là. Puis on va surtout regarder ce qui gravite autour du verset 22 puis que 23 pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça dit, ça. Mais on va quand même commencer à lire à partir de 1 Corinthiens 15, le verset 19. 19 à 23. Alors on lit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Alors, on a lu là, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. » Chacun en son rang, qu'est-ce que ça veut dire ça? La version français courant, puis second 21, traduit ça comme « chacun à son propre rang ». Puis la version Colombe et la parole mais vivante, eux, ils disent « cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé ». Donc, on comprend que dans la résurrection, il va y avoir un ordre là-dedans. Dans ça, on va regarder ça tantôt. Alors, si on vient au verset 19, on lit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Alors, si c'est dans cette vie seulement, ça veut dire si c'est dans notre vie physique uniquement. Si c'est dans notre vie physique qu'on espère en Christ, alors tous les croyants, finalement, seraient à plaindre. Serait à plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils auraient accepté de vivre toutes sortes de sacrifices pendant leur vie à cause de l'espérance d'une vie qui serait à venir, alors qu'il n'y aurait pas de vie après que la mort. Alors, voyez-vous un petit peu comment est-ce que ça fonctionnerait, là? Alors, tout ça, ça servirait à rien. Puis c'est pour ça qu'on lit dans le texte, « Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Sauf que ceux qui vivent avec cette compréhension-là de l'au-delà, à savoir qu'il n'y a aucune vie après la mort, ben, il faut le dire, ils sont gravement dans l'erreur. Leurs actions, parce que ceux qui pensent comme ça, là, leurs actions, leurs paroles, leur vie sont directement liées à leurs croyances. Pour eux, c'est quoi la façon de penser du monde? Mangeons et buvons, parce que demain on meurt. Puis ensuite, après la mort, il ne reste plus rien. Alors profitons-en pendant le temps qu'on est en vie. Ça, c'est la façon de penser du monde. Comment l'ennemi, comment Satan a réussi à leur rentrer ça dans la tête? Il est habile. Il est extrêmement habile. Puis il a fait un monde, je veux dire, c'est pas lui qui a fait le monde, mais c'est lui qui est maintenant en contrôle du monde, si on veut, là. Puis il a réussi à infiltrer dans la tête des gens toutes sortes de pensées tout croche qui font que ça ne fait pas de sens, là. Alors pour eux, c'est mangeons et buvons parce que demain, on va mourir. Alors profitons de la vie au maximum. Ça, c'est la philosophie du monde sans Dieu. Mais c'est le seul paradis dans lequel ils peuvent espérer. Parce qu'après ça, pour eux autres, il ne reste plus rien. Imaginez-vous la tristesse. Mais, puisqu'il y a une résurrection des morts, et là, je vous le dis tout de suite, restez à l'écoute, on va justement voir ça. On va le découvrir. Alors, puisqu'il y a une résurrection, on ne devrait pas consacrer nos vies à des choses d'intérêt passager. On devrait vivre pour alors et non pour maintenant. Parce que les gens du monde, c'est pour ça qu'ils vivent. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça qui compte. Mais pour les chrétiens, c'est au-delà de ça. Alors. Alors, verset 17, on va retourner au verset 17. On lit, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Si Christ n'est pas ressuscité, ici dans le contexte, le « si » ne véhicule pas le sens de « puisque ». Comme lorsque Satan a tenté le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, vous vous souvenez ce qu'il avait dit? « Si tu es le Fils de Dieu ». En grec, quand on traduit ça, c'est « puisque tu es le Fils de Dieu », ben demande à ces pierres-là qu'elles changent en vin. C'est qu'en pain, c'est-à-dire, excusez. Alors, le « si » du verset 17 ici a plutôt le sens de « supposons que ». Supposons que Christ n'est pas ressuscité. Ça exprime une hypothèse. Alors, justement, supposons que Christ n'est pas ressuscité, c'est une supposition. Notre foi est vaine. La version second 21 dit « inutile ». Puis la version Sommer dit « c'est une illusion ». Donc, si Christ n'est pas ressuscité, ma foi est inutile, je suis en train de vivre une illusion. Et deuxièmement, ce qui est pire, je suis encore dans mes péchés. C'est ça que le verset 17 dit. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18, par conséquent, ou la suite logique des choses. Si Christ n'est pas ressuscité, par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Pouvez-vous imaginer ça? Ceux qui sont morts en Christ, s'il n'y a pas de résurrection, ils sont perdus. Puis ça finit là. Ça vient de s'éteindre là. Verset 20. Mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ici, on ne parle plus d'une supposition, c'est une affirmation. Une confirmation. Puis même quand on lit au début de 1 Corinthiens 15, le verset 3, on lit ceci. Paul, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a réellement vécu. Il est mort, il a été enseveli, et Paul il dit que ce qu'il avait enseigné aux Corinthiens, c'est que le Seigneur est ressuscité. Puis il y en a une preuve, il y a plusieurs qui pouvaient valider cette vérité-là, à savoir que Christ était passé de la mort à la vie. Il y en avait plusieurs qui pouvaient confirmer. Alors, ce verset-là, le verset 20, c'est le verset sur lequel repose toute notre foi, toute notre espérance, toute notre assurance, toute notre victoire. Enlevez le verset 20 de 1 Corinthiens 15, puis on est les plus malheureux de tous les hommes. Il n'y a aucune espérance à atteindre, à attendre même. Le verset 20, c'est le centre, le cœur de la prédication de l'Évangile. C'est celui qui nous confirme que Jésus-Christ est ressuscité des morts. C'est l'assurance de la victoire sur la mort. C'est ce qui nous assure notre entrée pour le ciel. C'est pas une petite affaire, là, la résurrection. C'est écrit aussi, il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices, ça, c'était les premiers fruits mûrs qui garantissaient qu'il allait y avoir une moisson qui s'en venait. Alors, le terme est employé au sens figuré pour désigner que Christ est le premier. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alors, puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, c'est-à-dire Christ. Le premier homme, on le sait, il a fait venir la mort sur toute la race humaine en désobéissant à l'ordre que Dieu lui avait donné de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. On voit ça au début du livre de Genèse, à Genèse 2, 17. Le deuxième homme, lui, il a apporté la résurrection à tous les êtres humains. Et attention, quand je dis à tous les êtres humains, c'est à tous les êtres humains. Autant croyants comme incroyants. Tous les êtres humains vont un jour ressusciter. Mais chacun en son rang. C'est ça qu'on va voir un petit peu plus loin. On va examiner ça tantôt. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Ici, il faut être prudent dans l'interprétation. On a deux fois le mot « tous ». Tous meurent et tous revivront. En Adam, on le sait, tous meurent, tous sont morts. C'est l'héritage qu'on a reçu de notre père Adam et c'est l'héritage qu'on laisse à nos enfants. Des pécheurs qui donnent naissance à des pécheurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis c'est la raison pour laquelle tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, et faites-vous pas de peur, vous allez tous mourir. Moi aussi. Toute la gang, on va passer par là. Parce que on a péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Le deuxième « tous » lui dit « tous revivront en Christ ». Ce deuxième adjectif indéfini-là s'applique aussi à des descendants, mais il n'y a pas la même portée. Ce « tous-là » ne concerne que les croyants. Le verset dit « tous revivront en Christ ». C'est-à-dire ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Tous ceux-là vont revivre contrairement à ceux qui sont morts. Évidemment, je touche ici au côté spirituel, parce qu'il y en a qui sont encore vivants, mais spirituellement, ils sont morts. Physiquement, ça se dit pas, ça. T'es vivant ou ben t'es mort. Mais spirituellement, tu peux encore être vivant, mais mort. Donc, tous revivront en Christ, et le verset 23, celui sur lequel on veut se pencher, mais chacun en son rang. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici dans chacun en son rang? Est-ce qu'il y a un ordre dans la résurrection? Bien, il faut dire que oui, il y en a une. Et un ordre bien déterminé. D'abord, on lit que Christ il est ressuscité comme prémisse. Christ a été le premier fruit de la moisson de la résurrection. Puis à cause de la résurrection de Christ, tous ceux qui lui appartiennent vont entrer dans la vie céleste. Ils vont ressusciter, puis ils vont vivre éternellement avec lui. Mais l'expression « Christ comme prémisse », ça ne veut pas nécessairement dire que Christ a été le premier à se lever d'entre les morts. On a des exemples dans l'Ancien Testament qui nous soulignent ça. On a aussi dans le Nouveau Testament des gens qui sont ressuscités. Le méca classique, Lazare, dans Jean 11. Ensuite, il y a le fils de la veuve, dans Luc 7, 15. La fille de Jaïrus, dans Marc 5, 41. Mais la résurrection de Christ a été différente de toutes celles-là, dans le sens que lui, Christ, quand il est mort, quand Christ est mort, il est ressuscité pour ne plus mourir. Alors que Lazare, après avoir été ressuscité, il a goûté à la mort une deuxième fois. Alors, Christ est ressuscité pour ne plus mourir avec un corps glorifié. Maintenant, quand on parle de la résurrection des croyants, là je spécifie, la résurrection des croyants, ça va se dérouler en trois étapes et pour trois catégories de personnes. C'est une des explications pour l'expression « chacun en son rang ». Première catégorie, vous croyez tous que le Seigneur il va revenir enlever son Église? Alors, lorsqu'il va revenir, tous ceux qui vont avoir mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, à partir du jour 1 de l'Église, c'est-à-dire du jour de la Pentecôte, aller jusqu'au dernier jour de l'Église, c'est-à-dire au jour où le Seigneur va revenir pour chercher son Église, tous ceux-là, avec ceux qui vont encore être en vie lorsque le Seigneur il va revenir, tous ceux-là vont être ressuscités, ou ceux qui vont être en vie, mais eux autres, leurs corps vont être transformés, parce que la Bible nous dit que la corruptibilité, nos corps actuels, ne peuvent pas hériter de l'incorruptibilité. Il faut qu'on soit transformé. Alors, c'est la raison pour laquelle, écoutez, tous les croyants échelonnés sur une période d'au-dessus de 2000 ans, ils vont ressusciter. Mais imaginez, là, l'Église est là au-dessus de 2000 ans. Là. Il y en a du monde qui sont morts depuis ce temps-là. Tous les croyants, depuis le jour 1, vont ressusciter. Ça fait-tu du monde, ça? Imaginez un peu, là, au-dessus de 2000 ans. Tous ceux-là, en même temps, ceux qui sont morts vont ressusciter. Et ceux qui sont encore vivants vont être transformés. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, tournez-là, ça vaut la peine de lire ça. 1 Thessaloniciens 4, 16. Ce sont tous des versets qui nous confirment là, cette réalité-là. 1 Thessaloniciens 4, 16, on lit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Ça, c'est lorsqu'il revient chercher son Église. « Et les morts en Christ, tous ceux qui ont accepté le Seigneur depuis le jour de la Pentecôte, ressusciteront premièrement. » Verset 17, « Ensuite, nous les vivants, ceux qui vont avoir été encore en vie lorsqu'ils vont revenir, qui seront restés, Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Là, il y en a qui liraient ça, ils diraient, vous êtes des illuminés, vous autres, les méchrétiens. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est écrit. Il n'y a pas un être humain qui aurait pu inventer ça, là. Alors, on va tout être enlevé. La première résurrection, ça va être celle-là. Tous ceux qui vont avoir accepté le Seigneur depuis le jour de la Pentecôte, aller jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ceux-là qui vont être morts, ils vont ressusciter, et ceux qui sont vivants, ils vont monter au ciel ensemble avec eux autres. Suite à l'enlèvement que l'Église va commencer cette période qu'on appelle la Grande Tribulation. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ceux qui vont entrer dans la Grande Tribulation, ceux-là n'ont pas été enlevés avec l'Église pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas sauvés. C'est pour ça qui ne sont pas enlevés avec l'Église, ne sont pas sauvés. OK? On reste sec avec ça. Alors, durant les 7 années que va durer cette période, puis là, vous dites, il y en a qui pourraient dire, comment ça, tu sais que ça va durer 7 ans? Bien, dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27, c'est spécifié, ça. La période de tribulation va être divisée en 2 temps. 3 ans et demi de paix, et les 3 ans et demi qui vont rester, là, ça va être, là, ça va brasser. Et ceux qui vont vouloir croire, ils vont être obligés de payer ça au prix de leur vie. Alors, comme je vous disais, durant les 7 années que va durer cette période, et suite au témoignage des 144 000 que Dieu va avoir marqué d'un sceau, ça, on trouve ça dans Apocalypse 7, vous pouvez tourner là si vous voulez, bien, c'est que je vous invite, ça va y aller. Apocalypse 7. Alors, tous ceux-là qui vont avoir été marqués d'un sceau, bien, suite à leur témoignage, plusieurs vont être amenés à la foi. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. C'est écrit, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Alors, quand je vous disais, il y en a plusieurs qui vont venir, comme le texte dit, plusieurs vont être amenés à la foi. Plusieurs, c'est combien, ça? C'est un nombre incalculable. Puis on est où, là, quand on lit ce texte-là? Là? Le verset, il nous le dit, il se tenait devant le trône. On est au ciel. Il y en a une moyenne gang qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ pendant la grande tribulation, ils ont payé ça de leur vie, et ils sont maintenant au ciel en train d'attendre. Puis la grande tribulation, bien, regardez ce qu'on lit au verset 13 et 14. « Un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Mais ils ont payé de leur vie pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la grande tribulation, c'est sans contredit une période de grand jugement, parce qu'il va y avoir un paquet de fléaux qui va tomber sur la terre. Il y a beaucoup d'êtres humains qui vont maudire Dieu, alors que d'autres vont se tourner vers lui. Alors, la grande tribulation, ça va être également un temps de grâce exceptionnel comme un temps de grand jugement. Les deux, ils vont en faire mes parties. Puis, durant cette période-là, le nombre de conversions, comme on l'a lu, va être incalculable. C'est la plus grande campagne d'évangélisation jamais connue dans le monde. Et curieusement, comme je vous disais, dans un temps où pour croire, ça va nous coûter la vie. Apocalypse 7, 14 nous confirme cette vérité-là. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors, eux autres sont morts parce qu'ils sont rendus au ciel. Aujourd'hui, en Amérique, puis j'oserais même dire dans le monde entier, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à s'engager pour la cause de Christ. Notre société aujourd'hui a plutôt priorisé les délices, le bonheur, le plaisir et les réjouissances. C'est ça que les gens du monde veulent. Mangeons et buvons, parce que demain, nous allons mourir. Alors, eux, ce qu'ils ont priorisé, c'est « ayons du fun pendant le temps qu'on est en vie, parce qu'après, c'est fini. » Mais étrangement, lorsqu'il va y avoir des temps de souffrance et de persécution, plusieurs vont recevoir le Seigneur comme sauveur. Aussi bizarre que c'est, mais c'est comme ça que ça va se passer pareil. Ceux qui vont croire durant la grande tribulation seront comme tous les saints de l'Ancien Testament, ressuscités pour régner avec Christ pendant le millénium. Apocalypse chapitre 20, verset 4. C'est tous des passages qu'on trouve dans les Écritures. Ils ne sont pas tous un à la suite que de l'autre, mais lorsqu'on place les textes dans leur contexte, on comprend que c'est ça qui arrive. Apocalypse 20, verset 4, « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Ça s'est passé durant la grande tribulation. « Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie. » Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est une autre résurrection. La résurrection de ceux qui sont morts durant la grande tribulation. Troisième catégorie, le millénium. Le millénium, ça, c'est la période pendant laquelle Christ, après son retour, parce qu'on sait que Christ, il va revenir deux fois, hein? Il revient la première fois pour enlever son Église. 7 ans après, il va revenir pour instituer le millénium. Le millénium, ça, c'est la période pendant laquelle il va faire régner la justice et la paix sur la terre pendant 1000 ans. 1000 ans de paix, de prospérité, ça va être pas encore le ciel, mais ça va être comme ben, Christ, il va être là, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va régner. Alors, ceux qui rentrent dans le millénium, comme je vous disais, sont les ressuscités de la grande tribulation pour, comme on vient de le voir, régner avec Christ pendant 1000 ans avec ceux qui vont avoir survécu à la tribulation. Parce que, puis merci Seigneur, c'est pas tout le monde qui va mourir pendant la grande tribulation. Il y en a plusieurs qui vont mourir, mais c'est pas tout le monde. Puis comment est-ce que je fais pour vous dire ça? Le Seigneur Jésus-Christ avait confirmé ça dans Matthieu 24. Tournez là. Matthieu chapitre 24, verset 21. Quand on parle de Matthieu 24 et Matthieu 25, c'est justement dans ce temps-là, là, le temps de la grande tribulation, tout ce qui va se passer là, là, et ceux qui vont mourir et ceux qui vont persévérer, bien, la Bible dit qu'ils vont être sauvés. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils vont avoir persévéré, mais ils vont avoir tenu ferme pour le Seigneur jusqu'à la fin. Alors, Matthieu 24, verset 21, on lit, « Car alors la détresse sera si grande, Là, on est dans la grande tribulation. La détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, merci Seigneur, ça ne durera pas éternellement sur ce temps-là. Alors, encore une fois, les souffrances n'iront pas jusqu'à la destruction totale. Il y a un aspect important qu'il faut souligner aussi, c'est que tous ceux qui vont entrer dans le millénium sont tous des croyants. Contrairement à ceux qui rentrent dans la grande tribulation, qui, eux, sont tous des incroyants. Il faut faire la différence entre les deux. Si le Seigneur ne les a pas enlevés à l'enlèvement de l'Église, bien, ça veut tout dire. Donc, ceux qui rentrent dans la grande tribulation, ce sont tous des incroyants. Le millénium va être caractérisé par une période de paix, comme je vous disais, et de prospérité avec une grande longévité due au fait que c'est le Seigneur qui gouverne, mais avec une verge de fer. Il ne tolérera plus le mal et le pécheur va mourir frappé de malédiction. La mort va toujours être présente. Mais la malédiction originelle que le Seigneur avait donnée, là, quand il a dit « Tu vas mourir certainement », cette malédiction-là va être renversée pendant le règne millénaire. Durant le règne millénaire, il y a des choses qui vont se produire là qu'on ne peut pas concevoir, qu'on ne peut pas même comprendre. La Bible nous dit, Ésaïe nous dit que le lion va paître à côté de l'agneau. Aujourd'hui, en 2025, là, mettez un agneau à côté d'un lion et comptez le temps que ça va prendre. 1, 2, 3, 4, plic! Plus d'agneau. On est en 2025. Mais dans le millénium, les deux vont être ensemble. Ils vont manger du foin tous les deux, puis le lion ne fera pas de mal à l'agneau. On est dans le millénium. Bien, ça va être ça. Ça va être un temps comme ça. Puis Ésaïe 65, verset 20, souligne une autre que vérité aussi. Ésaïe 65, verset 20, c'est marqué, « Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Les choses vont être différentes. Demandez-moi pas de vous expliquer tous les petits détails qui vont se passer dans le millénium, mais ça va être un temps où le Seigneur va régner sur la terre et où les choses vont être complètement différentes de notre ère actuelle. On sait que la mort va être complètement annulée, mais lorsqu'on va être rendu dans l'état éternel. On voit ça à la fin de l'Apocalypse. Entre autres, Apocalypse 22, verset 3. J'aimerais que vous tourniez là aussi. C'est tous mes passages qui sont clés, qui sont importants à lire. Apocalypse 22, 3. Lorsqu'on va être dans l'état éternel, dans le nouveau paradis, il n'y aura plus d'anathème. Ça veut dire personne ou de choses vouées à la destruction. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. On n'est pas là encore. Maintenant, pour quelle raison est-ce qu'il va y avoir des pécheurs dans le règne millénaire si tous ceux qui rentrent dans le millénium sont des croyants? Ben, c'est pas dur à comprendre, ça, hein? C'est pas dur à me comprendre. Tous les descendants qui viennent au monde sont tous des incroyants. Mon père et ma mère ont eu 3 enfants. Moi et mes 2 sœurs. 3 pécheurs. Personnellement, j'ai eu 3 enfants. Les 3 à mes pécheurs. S'ils n'auraient pas expérimenté la nouvelle naissance, ils seraient encore tous des pécheurs. Alors, c'est évident que les gens qui vont donner naissance, Ils ont beau être croyants, lorsqu'ils rentrent dans le millénium, ils vont mettre au monde des pécheurs. Et ces gens-là se doivent de passer par la nouvelle naissance aussi. Mais là, ce n'est pas de savoir le Seigneur Jésus-Christ va venir. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est venu. Tu le crois-tu? Alors, c'est pas compliqué à me constater parce que lorsque le millénium il va être terminé, à la fin du millénium, Satan va être délié. Les êtres humains vont pouvoir se décider librement pour ou contre lui. Apocalypse 28 nous dit que leur nombre était comme le sable de la mer. Imaginez-vous, après avoir vécu 1000 ans dans une période de prospérité, de paix et de toutes sortes de choses comme ça, à la fin, lorsque Satan est délié, il y en a encore une gang qui vont vouloir le suivre. Et pas juste une petite gang, là. Le nombre est comme le sable de la mer. Il va en avoir toute une gang. Ils vont se rallier ensemble pour la dernière bataille. Donc, on lit tout le temps ça dans Apocalypse. Mais là, le feu du ciel va descendre, va consumer toute cette gang-là. Ce qu'on sait de ceux qui vont mourir durant le millénium, c'est qu'ils vont probablement être transformés à leur mort, puis qu'ils vont revêtir leur corps et leur esprit éternel, parce que la prochaine étape, c'est justement l'état éternel. Puis, on arrive à la dernière catégorie à la fin du millénium. Les derniers à ressusciter vont être tous les non-croyants qui ont vécu sur la face de la terre depuis la création du monde. Tous les non-croyants vont eux aussi ressusciter. Toute la gang. Il n'y a pas un être humain qui ne ressuscitera pas. Mais ils n'iront probablement pas à la même place, là. Ceux qui font partie de la dernière catégorie à la fin du millénium, eux vont ressusciter, mais pour une autre raison. Eux, ils vont tous passer devant le trône blanc du jugement de Dieu. Tournez dans Apocalypse 20, ça vaut la peine de lire ça. Apocalypse 20, verset 11. On lit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. » Parce que l'univers actuel corrompu va disparaître. Alors la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ici, il faut bien comprendre, ils vont être jugés d'après leurs œuvres. Là, les œuvres n'ont jamais eu affaire au salut. Mais il y en a, probablement qu'en enfant, il y en a qui vont souffrir plus que d'autres. Prenez un gars comme Hitler, comparativement à une mère de famille qui, la seule chose qu'elle a faite, c'est de ne pas vouloir accepter Seigneur Jésus-Christ. Les deux vont à la même place, mais le degré de souffrance, probablement qu'il va être différent. Quand on lit ça, chacun va être jugé selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ses livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La seconde mort implique qu'il y en a eu une première, celle que tous les êtres humains vont connaître. La seconde mort, elle est spirituelle et éternelle. Elle va prendre place dans l'étang de feu, l'enfer éternel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les croyants, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ne goûteront pas à cette mort-là. comme on lit dans Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, le verset 6 parle de première résurrection, parce qu'il y en a deux sortes. La résurrection pour la vie, qui touche ceux qui appartiennent à Christ, elle concerne les rachetés du temps de l'Église, les rachetés de l'Ancien Testament, les rachetés de la grande tribulation. Puis la seconde résurrection, elle, sera celle des incroyants qui va les amener au jugement du grand trône blanc. Peut-être que ça peut être mêlant là, lorsqu'on entend tout ça de même, mais lorsque vous lisez les textes puis que vous les mettez dans leur contexte, tout s'explique, tout est clair. Alors, en conclusion, oui, c'est le temps qu'on fasse une conclusion. Alors, les Écritures nous exposent clairement l'ordre des résurrections à venir. Quand je vous disais tantôt, chacun en son rang. Les Écritures nous exposent l'ordre des résurrections à venir. Le premier groupe, on l'a vu, lorsque le Seigneur vient pour enlever son Église, il y en a qui vont ressusciter, il y en a beaucoup qui vont ressusciter. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, c'est ceux de la grande tribulation qui vont entrer dans le millénium avec les saints de l'Ancien Testament. La troisième, c'est ceux qui vont mourir pendant le millénium. Puis la quatrième, c'est tous les incroyants à la fin du millénium. Ça, c'est les ordres de résurrection. Maintenant, c'est à nous de se positionner pour savoir à quelle sorte de résurrection je vais faire partie. Celle pour la vie ou celle pour le jugement? Parce qu'il y a un verset clé. Souvent, on lit ce verset-là, on a tendance à passer vite par-dessus. Mais Jean 5, 24 nous donne une indication claire à savoir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va être pour nous. Est-ce qu'il va être un sauveur ou un juge? Jean 5, 24 dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ça c'est une chose, et il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Pour tous les êtres humains, le Seigneur Jésus-Christ va être soit un juge, soit un sauveur. J'ose espérer que pour vous, il va être un sauveur. S'il n'est pas un sauveur, il est un juge. C'est la plus grave des choses qui ne peut pas arriver dans la vie d'un être humain. Prions. Oui, notre Dieu et Père, on est encore heureux de ce qu'on a pu effleurer les textes bibliques qui nous expliquent un petit peu l'ordre des résurrections. On veut te rendre grâce, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont accepté, Seigneur Jésus-Christ, de leur vivant, ce qui leur assure une place avec toi au ciel pour l'éternité. Mais on veut aussi prier pour ceux qui ne se sont pas encore tournés vers le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. On veut te prier pour eux afin qu'ils ne te rencontrent pas comme étant leur juge, mais plutôt qu'ils apprennent à découvrir un sauveur qui les a aimés. Et c'est pour sa plus grande gloire que nous te prions. Amen.